Frères et sœurs, cette page d'évangile nous fait un peu bouger. On peut commencer d'ailleurs par réfléchir à une question. Est-ce que nous aimons que quelqu'un, un proche, frère, une sœur, dans la communauté chrétienne ou proche dans la famille, vienne nous corriger, nous faire une remarque sur ce qui n'est pas tout à fait ajusté à l'évangile dans notre façon de faire? Est-ce que nous aimons? Bien, j'ai appris ces jours-ci que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Faustine, elles, oui, elles aimaient cela parce qu'elles savaient que ce serait une source de progrès dans la sainteté. Donc elles réclamaient à leurs sœurs de venir leur dire clairement les points sur lesquels elles étaient appelées à se convertir. Le Père qui est ici présent parle régulièrement des angles morts. Il aimerait qu'on lui dise ses défauts parce qu'il a peur de ne pas les voir. Vous voyez, alors, c'est courageux. Voilà, parce qu'on peut tous être pris par des angles morts, vous voyez, la paresse, on ne fait pas les choses parce que bon, on n'a pas envie de les faire, quoi, ou l'orgueil parce qu'on se situe quand même nettement au-dessus des autres, ou bien, vous savez, c'est des petits péchés par omission, vous voyez, les manques de service. Chérie, si je sors la poubelle et que je la laisse dans la cuisine, c'est pas pour décorer. Si tu veux bien la descendre, ça me rendrait service, vous voyez. Bon, voilà. Alors, en fait, je me suis dit que il faut avoir en fait pas mal d'humilité pour recevoir avec joie la correction qui nous est faite. Et puis, il faut aussi du courage pour décider de changer. Vous voyez ? Donc, il faut de l'humilité et du courage. De l'humilité qui commence d'ailleurs par accepter la remarque qu'on nous fait, même si, de prime abord, on estime qu'elle n'est pas très juste. Il y a une communauté, la communauté du Cenacolo, à Lourdes, qui accueille des personnes qui ont touché à différentes drogues et qui se reconstruisent. Et une des règles du Cenacolo, c'est que quand on te fait une remarque, tu ne réagis pas, tu ne dis pas ce que tu en penses pendant 3 jours. Vous voyez, 3 jours, le temps de déglutir, de digérer, et puis de faire la part des choses. Peut-être que ça pince un peu mon orgueil, mais en fait, j'ai quand même besoin d'avancer sur un point. Bon. Et du coup, si on comprend qu'on en a besoin, on comprend aussi que notre frère, notre sœur, notre voisin, la communauté chrétienne en a besoin. Et alors, on comprend l'importance d'aller corriger son frère. Mais c'est parce que d'abord, chacun d'entre nous en a besoin. Ça ne marcherait pas. Bon. Et ce qui est très intéressant dans cette page d'évangile, si on regarde bien, c'est que l'enjeu, c'est de sauver son frère. En écho d'ailleurs avec le texte du prophète Ézéchiel qu'on a entendu en première lecture. C'est-à-dire de lui donner la possibilité de progresser et de se convertir. Et donc, on comprend d'ailleurs aussi que les modalités pour aller faire une remarque de la correction fraternelle à son voisin sont les mêmes qualités que pour recevoir la remarque, à savoir l'humilité et le courage. Parce qu'en fait, il faut avoir un peu d'humilité et de courage pour aller voir directement la personne, comme Jésus lui dit, va voir ton frère seul à seul, et non pas d'en parler à tout le monde, vous voyez ? Parce que c'est plus facile de parler en mal de son frère dans son dos que d'avoir le courage d'aller le voir. J'ai une petite question, là, il me semble que... Bon. Et puis, si on le fait avec humilité, ça passe, vous voyez. Si on le fait avec colère et orgueil, ça passe pas, ou ça passe pas très bien, vous voyez. Et donc, le but, c'est de chercher le bien de l'autre en s'étant libéré d'une éventuelle colère personnelle. Et d'ailleurs, la remarque vaut que sur le fait que si tu es en colère, pour le moment, tu ne peux pas corriger ton frère. D'abord, tu te calmes, tu laisses passer aussi 2 ou 3 jours, et après, tu vas lui en parler pour son bien à lui quand c'est le moment. Et donc, en conclusion de cette magnifique page d'évangile qui nous fait tous un peu bouger, si on écoute bien, en fait, on réalise qu'on a besoin les uns des autres, qu'on ne va pas avancer tout seul, vous voyez, et que l'enjeu, c'est le salut, et que l'enjeu, c'est le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est étonnant parce que cette parole de Jésus sur la correction fraternelle dans la première communauté chrétienne, elle est exactement la même que la parole que Jésus dit à Saint-Pierre, il a le pouvoir des clés de pardonner les péchés, c'est la même. Et donc, entre nous, on a un rôle extrêmement important pour contribuer au salut les uns des autres. Et donc, en clair, on a besoin de l'Église, puisque ce passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre se situe au milieu du chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, qui est le grand discours de Jésus sur la vie en Église. Mais la vie en Église, ce n'est pas l'Église théorique et lointaine, c'est la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens. Et donc, la première lumière de ce jour que je vous propose, c'est que nous prenions acte que pour avancer dans la foi en Jésus, nous avons besoin de l'Église, c'est-à-dire d'une communauté concrète avec qui nous nous entraidons pour progresser dans la sainteté. Et Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il y a un vrai enjeu. je ne peux pas prier, écouter la parole de Dieu, me convertir, servir et évangéliser sans les autres. Je ne vais pas y arriver. Et donc la première question, c'est est-ce que j'ai une petite communauté chrétienne à laquelle j'appartiens ? Alors peut-être que c'est ma famille, à condition qu'en famille, on prie ensemble, comme on l'a entendu d'ailleurs à Pontmain dans la neuvaine hier, enseignement du père Renan. Est-ce qu'on prie ensemble ? Est-ce qu'on essaie de se soutenir dans une conversion mutuelle ou pas ? Sinon, ce n'est pas encore une vraie communauté chrétienne. Vous voyez, notre famille, c'est bien, on va à la messe, mais on ne va pas au bout de la vie d'une communauté chrétienne. Alors sinon, ça peut être une fraternité paroissiale ou une équipe de la CO ou des équipes Notre-Dame ou une maisonnée de l'Emmanuel, une équipe du Rosaire, que sais-je. Voyez, bon. Mais on a tous besoin d'appartenir à une petite communauté de frères où on se soutient les uns les autres dans la prière, dans la foi, dans la correction fraternelle et dans la mission. Et à ce titre-là, j'aimerais que Pascal et Sophie, je ne sais plus où ils sont tellement discrets qu'on ne les voit pas, voilà, ils sont au fond, voilà, vous les repériez bien, ils vont s'approcher, voilà. Pascal et Sophie sont responsables de la coordination des fraternités paroissiales avec une petite équipe dans laquelle il y a aussi Sarah et Annick qui peuvent aussi se manifester. Alors, si vous n'avez pas encore de petite communauté chrétienne, eh bien, s'il vous plaît, allez les trouver à la fin de la messe. Ils vont se réjouir de vous trouver un petit groupe de, voilà, de fraternité paroissiale avec lequel on peut avancer. Merci beaucoup. Et donc, c'est la première lumière qui me semble extrêmement importante pour démarrer ensemble cette année en paroisse. Et en fait, Jésus continue et dit « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut demander ? Qu'est-ce que vous avez demandé tout à l'heure ? Peut-être la santé, peut-être de régler des problèmes de famille, de travail, peut-être la paix du cœur, la paix dans le monde, la communion entre nous, le réconfort, etc. Bon. Mais on peut demander encore mieux, si j'ose dire. La source de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la source du réconfort, de la communion, de la paix, etc., de la vie ? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Cet été, j'ai fait une expérience très très belle. J'ai participé, quelques-uns d'entre vous, à une session à Paray-le-Monial, et on m'a demandé de faire partie d'un petit parcours. Il y avait trois rencontres autour de l'Esprit Saint. Et on a témoigné, et on s'est enseigné les uns les autres sur l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, comment l'Esprit Saint nous aide, déploie en nous ses dons, pour que nous découvrions la présence vivante de Jésus, que nous aimions prier, que nous écoutions sa parole, que nous recevions les uns les autres comme des frères et sœurs, voilà. Et on a vécu cette démarche, et les uns les autres, ce qu'ils voulaient, ont pu demander une effusion du Saint-Esprit. Et c'était magnifique, il y a un couple qui, à la sortie, m'a dit « Nous, on est catholiques pratiquants depuis toujours, mais ça change tout, ça change tout. » Parce qu'on faisait des efforts jusque-là. On faisait des efforts pour aller à la messe, pour essayer de prier un peu, pour... Mais quand c'est l'Esprit Saint qui embrase notre cœur, alors on est porté par la grâce, ça change absolument tout. Et le même couple m'a dit, et vous, dans votre paroisse, vous proposez une retraite pour accueillir l'effusion du Saint-Esprit ? Ben, j'ai dit, bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que si on a bien pris la mesure des choses, en fait... Ça fait partie des choses essentielles de la vie chrétienne. Sinon, on est uniquement dans une logique d'effort, mais au bout d'un moment, ça ne marche pas. Enfin, vous avez essayé, moi aussi. Sans l'Esprit Saint, on ne va pas y arriver. Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compté parmi vous le nombre d'années de présence de leur curé ici. C'est ma 10e rentrée. Bon. En principe, un curé, il fait 6 ans, et puis il est renouvelé 3 ans. Ça fait 9 ans, comme vous avez compté. Et j'en suis à la 10e, parce qu'on m'a dit, voilà, ce serait bien que tu fasses une année de plus, parce que tu vois, il y a telle chose qui émerge ici, dans le hameau de la Sainte Famille, alors ce serait bien. D'accord, oui, très bien. Et puis, ce jour-ci, je me suis dit, mais je ne suis peut-être pas ici uniquement pour qu'on termine les travaux. Vous verrez, c'est magnifique, ce sera inauguré bientôt, tout ça. Bon. Mais voilà, bon, j'aime construire, super. Bon. Mais en fait, je pense que derrière ma 10e année ici, il y a un projet du Seigneur. Et ma conviction... c'est que je ne peux pas vous quitter sans vous avoir introduit dans l'accueil des dons du Saint-Esprit qui changent tout dans une vie chrétienne. Que si je ne le faisais pas, je manquerais à ma mission de curé et que, pardonnez-moi, mais si vous n'acceptiez pas, j'aurais raté ma mission de curé. Alors, on n'a pas réfléchi, ça fait un moment que ça mûrit, enfin, depuis fin août, et une espèce d'évidence sur laquelle on a avancé, c'est qu'on va faire une retraite paroissiale pour accueillir davantage les dons du Saint-Esprit qu'on a reçus au baptême et à la confirmation. En octobre et novembre prochain, il y aura 6 rencontres, voilà, soirée, en dehors des vacances scolaires, et puis une journée, on va prier ensemble. Vous verrez, c'est à la fois extrêmement simple, mais extrêmement fondamental. Et alors, mon rêve, c'est que vous veniez tous. Parce qu'on a tous besoin, même si on est des vieux briscards dans la foi chrétienne, on a besoin d'être renouvelés pour que l'Esprit Saint continue à déployer ses dons. Ses dons, sinon, on a reçu un cadeau incroyable, c'est un trésor, on le laisse dans le placard en disant « je l'ai », surtout que ça ne bouge pas. Bon. Voilà, donc c'est la deuxième lumière. On va rentrer dans cette année pastorale en demandant à l'Esprit Saint de déployer ses dons en nous pour qu'on soit la communauté chrétienne que Dieu veut. Et la troisième lumière, qui me paraît très claire, c'est que vous savez que l'Esprit Saint est appelé le Père des pauvres par l'Église, le Père des pauvres. C'est-à-dire que si vous dites, moi, je n'arrive pas très bien, ça tombe bien, vous en avez besoin. Et que l'Esprit Saint, en fait, nous conduit justement à être attentifs aux plus vulnérables parmi nous, à mettre les plus vulnérables au centre de nos préoccupations. Et j'ai relu ces jours-ci la lettre pastorale que Mgr Jam nous a donnée il y a exactement un an. Et un paragraphe, dans un paragraphe, il écrit ceci. Le souci de la solidarité, de l'attention aux plus faibles, de la charité, ne peut être seulement délégué à quelques spécialistes ou organismes. Parmi nous, il y en a qui servent dans différents organismes caritatifs, la Conférence Saint-Jean-Paul, le Secours catholique ou d'autres organismes. Très bien. Mais on ne peut pas simplement déléguer. Nous ne pouvons pas vivre la charité par procuration. Bon, si on donne aux catholiques, on les laisse se débrouiller. Bon. La foi chrétienne n'est pleinement en acte si, d'une manière ou d'une autre, nous ne portons pas le souci des plus petits de nos frères. J'encourage, conclut-il, la constitution de diaconie paroissiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les organismes qui existent, qui sont nécessaires, ne suffisent pas. Je ne sais pas si vous écoutez d'ailleurs la radio ces jours-ci ou la télévision. Le Resto du Cœur, là, ils n'y arrivent plus. Bon, ils n'y arrivent plus. Parce qu'il y a trop de personnes qui ne mangent pas à leur faim tous les jours en France. Bon. Et donc, on peut dire, il faut que l'État dote davantage d'argent. Peut-être que nous aussi, il faut qu'on se bouge. C'est-à-dire que si chacun aide son voisin de palier, il n'y a pas besoin d'aller au Secours populaire ou au Resto du Cœur. Vous voyez, bon. Et donc, en fait, on est appelé à un nouvel élan. La diaconie de secteur, ce n'est pas une nouvelle organisation qu'on rajouterait en plus des organisations. Si j'ai bien compris, c'est un nouvel élan de charité, c'est-à-dire de soins, d'attention toute simple à son voisin. Si chacun de nous prend l'engagement d'être attentif toutes les semaines, une fois par semaine, à la même personne, ça change la face du monde. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors, on s'est dit, tiens, quels sont les plus vulnérables parmi nous? Alors, si vous manquez d'idées et que vous n'en avez pas dans votre entourage, on va vous en donner. Et il y a le service évangélique des malades. Parce que Marie-Pascale, qui en était responsable pendant plus de 6 ans, aurait la gentillesse de s'approcher. Voilà, avec toute une équipe, elle a porté le souci des visites aux malades dans 3 EHPAD et à domicile. Pendant plus de 6 ans, on la remercie très profondément. Et à sa suite, François et Marie-Jeanne ont accepté de prendre le souci, la coordination du service évangélique des malades. Alors, ils ne vont pas le faire tout seuls, ils vont le faire avec tous ceux qui acceptent d'aller, une fois de temps en temps, visiter des malades au domicile ou dans les 3 EHPAD dont nous avons la charge. Je les remercie profondément. Ils ont droit à une belle lettre de mission. Merci. Voilà, donc si vous cherchez des idées, qui on peut servir? Eh bien, des malades en allant voir François et Marie-Jeanne. Il y a aussi les plus fragiles parmi nous sont les enfants et parfois les familles. C'est pour ça qu'on développe ici ce hameau de la Sainte Famille qui sera inauguré en présence de l'évêque auxiliaire, Mgr Levert, et du maire de Talence le samedi 7 octobre prochain. Alors, je vous invite à venir, mais je vous invite surtout à inviter des gens autour de vous, parce que ce n'est pas réservé aux cathos. C'est pensé, organisé, voulu pour accueillir toutes les personnes de la commune de Talence. Donc votre voisin de palier aussi. Donc à la sortie, vous recevrez un tract pour qu'ils viennent découvrir tout ce qu'on peut faire pour le service des familles ici, familles au sens large d'ailleurs. Vous savez qu'il y a la maison Familia, il y a les cours de musique, d'initiation musicale avec Carmen sur Musique en couleur, il y a sans d'autres activités culturelles, etc., qui se déploient. Troisième idée de personnes que nous pouvons servir particulièrement, ce sont les nouveaux baptisés. Les nouveaux baptisés. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont été baptisés récemment ? Il peut se lever ou pas ? Voilà. Merci Julie, peut-être d'autres. Bon. Et voilà, il y en a 22 qui ont été baptisés en même temps que Julie à Pâques dernier. Merci. Alors, en fait, c'est magnifique. Ceux qui étaient à la célébration, ils ont été bouleversés. Bon. Mais après, ils ont besoin qu'on les aide, voyez, parce que en fait, découvrir la vie chrétienne, etc., c'est pas si facile que ça. Et donc, on pense qu'il faut qu'on soit attentif à eux. Et l'Église a en fait dans ses tiroirs un cheminement d'accompagnement qui s'appelle, c'est un mot nouveau pour vous peut-être, le néophyta, parce que les nouveaux baptisés, c'est une nouvelle plante en grec, néophyte. Alors, on va monter un parcours qu'on va appeler un parcours de disciples, en disant, mais ils ont besoin qu'on les aide à continuer à grandir dans la foi, puis qu'on les entoure et qu'ils découvrent d'autres chrétiens, etc. Et ils ont besoin d'être accompagnés. D'ailleurs, les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême et les néophytes, ils ont besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui peut vous rencontrer régulièrement, un aîné dans la foi. Voilà. On va chercher des aînés dans la foi, des gens qui sont déjà baptisés, puis qui vont les aider à faire un bout de chemin. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais ils ont besoin, c'est clair. Mais peut-être que la plupart d'entre nous ont besoin aussi de refaire le tour des fondamentaux. Pourquoi et comment prier tous les jours ? C'est pas si simple que ça. Pourquoi et comment écouter la parole de Dieu ? C'est pas forcément facile. Pourquoi et comment croire le credo qu'on dit à la messe tous les dimanches ? Est-ce que c'est simple ? Ben non, c'est pas très simple. Bon, la résurrection des morts, c'est pas très simple, etc. Bon, l'incarnation du Fils de Dieu non plus. Et donc, voilà. Et donc, un parcours de disciples qui démarrera après la retraite à l'Esprit-Saint au mois de décembre. Voilà. Alors, je conclus. Nous commençons ensemble une année nouvelle. Est-ce que nous acceptons qu'elle soit nouvelle ? C'est ça, la question. Et moi, j'avoue que je commençais ma 10e année en disant c'est la même année que l'année dernière, on démarre plan-plan, etc. Et l'Esprit-Saint m'a pris à contre-pied. C'est pas plan-plan du tout. Et on va changer. Voilà. Est-ce qu'on accepte que l'année qu'on va vivre ensemble en communauté, c'est pas forcément tout à fait celle que vous aviez imaginée ? Et qu'on va ensemble faire ce parcours pour accueillir les dons du Saint-Esprit, et puis ensuite s'inscrire dans un parcours de formation à la vie chrétienne d'une façon ou d'une autre. Alors, il y aura un temps de discernement, qu'est-ce qui est adapté à qui ? Voilà. On prendra du temps avec vous. En fait, la question, c'est est-ce qu'on veut être disciple de Jésus ? Si oui, on a besoin des frères, on a besoin de nos fraternités, on a besoin d'être attentifs les uns aux autres, en particulier plus vulnérables, et alors le Seigneur nous bénira très profondément, et nous serons très profondément heureux, et alors nous pourrons attirer d'autres davantage dans notre communauté chrétienne, qui découvriront par nous l'amour de Jésus. Qu'il soit béni. Amen.